France Musique. France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle grande série d'été sur France Musique. Après avoir rendu hommage à Ginette Neveu et aux grandes violonistes les années précédentes dans l'émission « Mon cœur est un violon », cette année, on élargit le champ d'investigation. Je vous propose de partir sur les traces de violoncellistes, pianistes, clavecinistes, guitaristes ou encore trompettistes, de grandes musiciennes du 19e et du 20e siècle qui ont marqué leur temps et auxquelles l'histoire n'a pas toujours rendu justice. Si la plupart n'aimaient pas être ramenées à leurs conditions féminines, force est de constater que le fait d'être une femme a constitué souvent un obstacle bien réel dans leur carrière de musicienne professionnelle. Et double peine, elles sont à peine mentionnées dans les livres sur les grands interprètes. Pourtant, comme le dit l'historien Patrick Boucheron, l'histoire est l'art de se souvenir de ce dont les hommes et les femmes sont capables. Eh bien, dans l'histoire de la musique, des femmes capables, il y en a, croyez-moi, et énormément. Au-delà des quelques exceptions célèbres passées à la postérité, ce sont ces autres musiciennes que je veux vous faire découvrir cet été et dont je veux vous raconter les histoires. Des musiciennes de légende qui ont bravé des interdits, forcé la porte des conservatoires, des musiciennes qui ont excellé dans leur art et qui ont tracé la voie pour une Ginette Neveu, une Clara Askill ou encore une Jacqueline Dupré.
Thank you.
Pour que Jacqueline Dupré rentre dans la légende avec sa version du Concerto d'Elgar sous la direction de John Barbirolli en 1965, combien de violoncellistes avant elle pour rendre possible ce moment historique ? Longtemps, il était impensable que les femmes jouent de la musique pour gagner leur vie. Les chanteuses faisant exception, la professionnalisation des femmes dans la musique est le résultat d'une longue lutte au cours des siècles, et le cas du violoncelle est particulièrement frappant. Au XVIIe et XVIIIe siècle, dans les Ospedalies de Venise, ces orphelinats féminins où on enseignait la musique, des femmes jouaient de la viole de gambe. D'ailleurs, Sainte Cécile, la sainte patronne de la musique, était souvent représentée comme gambiste. Et il y avait des femmes qui jouaient de la viole de gambe à la cour de Louis XIV. Pourtant, très vite, la morale et la question du genre s'invitent dans le débat. Si le piano et la harpe, avec leur posture modeste, semblent convenir aux femmes qui en jouent dans les salons, le violon, instrument du diable, est lui perçu comme problématique, le corps de la violoniste étant exhibé. Mais avec le violoncelle, c'est encore une autre histoire. Une femme qui écarte les jambes en public pour serrer cet objet volumineux, vous n'y pensez pas. En plus, pour produire des sons graves, une voix masculine, comme le décrit par exemple le musicologue Wilhelm Joseph von Wassilievski, un ami de Mendelssohn et de Schumann. Dans son livre « Le violoncelle et son histoire », il écrit « Si le violon est une voix de soprano, la voix tendre ou jubilatoire d'une jeune fille, le violoncelle, lui, est une voix de ténor ou de basse qui émeut notre âme avec sa sonorité fascinante et son pouvoir d'intonation virile. Le violoncelle est pour les hommes affaire classée. » Pourtant, dans la première partie du XIXe siècle, une jeune Française va faire bouger les lignes. Elle s'appelle Lise Christiani. Née en 1827 à Paris, au sein d'une famille aisée, Lise Christiani donne son premier concert à l'âge de 17 ans dans une salle parisienne, concert qui fait sensation. Après avoir parcouru la Scandinavie et l'Europe centrale, elle donne la même année un récital à Leipzig avec Félix Mendelssohn au piano. On est en 1845. Impressionné par l'élégance du jeu de la jeune femme, Mendelssohn lui dédicace une romance sans paroles. Thank you. Sur France Musique, la romance en parole opus 109 de Félix Mendelssohn sous les doigts de Pablo Casals, une pièce écrite par Mendelssohn pour la violoncelliste française Lise Christiani, surnommée la Sainte Cécile française. Lise Christiani, ayant entendu parler des tournées triomphales effectuées en Russie par le violoncelliste belge Adrien Servet, décide de partir elle aussi sur les routes du Grand Est. Elle a 22 ans. Accompagnée par un pianiste allemand d'un certain âge et par un officier russe à la tête d'une caravane de chevaux manœuvrée par 6 cosaques, elle embarque avec son Stradivarius de 1700 pour une tournée la menant jusqu'à la frontière de la Chine et des rives du Pacifique. Elle décrit ses aventures dans des lettres adressées à ses parents et amis, un véritable roman d'aventure. La jeune femme donne d'innombrables concerts et récitals privés et affronte tempêtes de neige, traversées en bateau et rencontres périlleuses avec des tribus nomades. Mais après 5 années de pérégrination, la rudesse de l'hiver russe et ses conditions de voyage auront raison de sa santé. La jeune aventurière est emportée par le choléra à seulement 26 ans. Nous écoutions à nouveau Pablo Casals dans un extrait des Saisons de Tchaïkovski, transcrit pour violoncelle et piano, une pièce intitulée Octobre. En 1853, Lise Christiani meurt près de Rostov-sur-le-Don à 26 ans. Son violoncelle, un Stradivarius de 1700, baptisé le Christiani, est réexpédié à Paris. Ainsi s'achève le destin d'une incroyable aventurière, notre première violoncelliste de légende. Quelques années auparavant déjà, en 1849, alors que Christiani sillonne la Russie, le Conservatoire de Paris accueille lui sa première élève violoncelliste, Thérèse Jaurès. À partir de là, plusieurs femmes s'y succèdent régulièrement, notamment Lucille Hilmacher qui obtient un premier prix en 1875. Mais la plupart se marient à peine sortis du conservatoire et disparaissent aussitôt de la scène musicale. Au tournant du siècle, on note quelques noms comme Marguerite Bode qui fait carrière dans les salons privés et impressionne par sa virtuosité et sa puissance sonore. Ce qui ne semble pas du goût de certains. On lit dans la presse « Si elle traitait les hommes comme son violoncelle, ceux-ci auraient intérêt à prendre garde. » Il y a aussi Adèle Clément qui, à l'instar de Lise Christiani, prend la route et sillonne le monde, atteignant la Chine et même le Japon. Pour travailler lors de ses déplacements, elle invente même un violoncelle muet démontable. Mais celle qui fut l'une des premières françaises à s'imposer dans une carrière de soliste à l'international, c'est Marguerite Caponzacchi, née en 1884. Elle joue sur les plus grandes scènes, les grandes œuvres du répertoire de violoncelle, les concertos de Haydn, Schumann, Lalo, Dvorak ou Saint-Saëns, dont elle crée la suite pour violoncelle et orchestre. Dans les années 20, chambriste active, elle participe à la création du Quintet de Vierne avec Nadia Boulanger au piano et Yvonne Astruc au violon. Elle fonde l'année suivante avec cette dernière et Hélène Léon un trio avec piano. Voici un de ses rares enregistrements, un air célèbre de Handel transcrit pour violoncelle et piano.
Thank you.
Sur France Musique, un document exceptionnel d'archives qui nous permet d'entendre la violoncelliste française Marguerite Caponzacchi au début du XXe siècle, dans la musique de Handel. Si les choses bougent en France au tournant du siècle, à la même époque au Royaume-Uni, c'est la violoncelliste May Muckle qui émerge comme soliste de réputation internationale. En 1909, elle est la première femme violoncelliste à se produire en soliste en concerto au célèbre Promenade Concert. May Muckle joue les premières britanniques des duos de Ravel ou de Kodály pour violon et violoncelle, ainsi que des œuvres de Gustav Holst ou Ralph Vaughan Williams. Née en 1880, dans une famille de musiciens, May Muckle commence sa carrière comme enfant prodige. Après avoir étudié à la Royal Academy of Music de Londres, elle tourne en Europe, en Australie, aux États-Unis et même en Asie et en Afrique, obtenant le surnom de Casals au féminin. En 1908, elle rejoint avec sa sœur pianiste Anne, la grande violoniste américaine Maud Powell. Pendant une saison, elles se produisent en trio avec piano. Maud Powell, de 15 ans son aînée, est une grande avocate de la cause féminine. À son retour en Europe, May Muckle fonde la Society of Women Musicians, la Société des femmes musiciennes. Elle forme avec ses collègues britanniques un quatuor avec piano entièrement féminin, l'ensemble anglais, avec notamment la violoniste Marjorie Hayward, la pianiste Kathleen Long et la compositrice altiste Rebecca Clarke. À cette époque, il existe une sorte de contre-culture féminine avec des ensembles exclusivement féminins sur lesquels les compositrices comptent pour interpréter leurs œuvres. Par exemple, la berceuse de la compositrice Alice Vernbrett sous les doigts de la violoncelliste britannique May Muckle, un enregistrement historique de 1915.
France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
Même si les portes de l'orchestre restent encore fermées, les choses avancent pour la professionnalisation des femmes avec le violoncelle. Au début du XXe siècle, plusieurs d'entre elles réussissent à s'imposer comme solistes de premier plan. Et c'est notamment grâce à une évolution technologique, l'introduction de la pique. La pique qui libère les jambes et donc qui permet l'émancipation féminine. Apparu dès le XVIIe siècle, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que la pique soit adoptée. Et encore, on continue à préférer enseigner aux femmes des techniques permettant d'éviter de tenir l'instrument entre les jambes. C'est ce qu'on appelle la position en Amazone, comme à cheval. Les deux jambes sont tenues à gauche de l'instrument et on appuie la jambe droite sur un coussin ou un tabouret. Pas très pratique. Une posture qui survit jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Mais ce sont les femmes, justement, qui seront à l'origine de l'emploi généralisé de la pique. Par exemple, la Britannique Beatrice Harrison, qui à la suite de May Muckle, devient une ambassadrice très médiatique du violoncelle au féminin. Sur France Musique, nous écoutions le prélude de la troisième suite en do majeur de Jean-Sébastien Bach par la violoncelliste britannique Beatrice Harrison. Née en 1892 en Inde, Beatrice Harrison rejoint Londres avec sa famille. Béatrice démarre comme enfant prodige aux côtés de ses sœurs, Margaret et May au violon et Monica qui chante. Connues comme les Harrison Sisters, au tout début du XXe siècle, les jeunes femmes comptent parmi les plus brillantes interprètes d'Angleterre. En solo, en duo, parfois en trio, elles jouent et créent des œuvres de leurs contemporains comme Frédéric Delius, Edward Elgar, Zoltán Kodály ou Arnold Bax. En 1924, Beatrice Harrison devient très connue grâce aux diffusions radiophoniques. Ce sont les débuts de la BBC.
In those dewy days of early radio, there was probably just as much invention as there is today. Who but a genius or a nut could have induced Beatrice Harrison to sit in the middle of a Surrey wood playing songs my mother taught me on the cello to induce the nightingales to sing.
Des ingénieurs du son viennent l'enregistrer en live dans le jardin de sa maison et des rossignols se mettent à chanter en même temps qu'elle joue. L'expérience connaît un succès extraordinaire avec plus d'un million d'auditeurs. Et elle sera reproduite pendant 11 ans, à chaque mois de mai. Beatrice Harrison devient The Lady of the Nightingale, la dame au rossignol. Bon, certains disent qu'il ne s'agissait pas de vrai rossignol, mais d'un siffleur très talentueux. En tout cas, ces enregistrements forgent la popularité de cette grande violoncelliste, une violoncelliste de première classe. En 1926, elle enregistre avec Gerald Moore la première sonate de Brahms.
Thank you.
Le nom de Beatrice Harrison, que nous écoutions à l'instant dans la première sonate de Brahms avec Gerald Moore, est intimement lié au concerto d'Elgar. Concerto qu'elle va contribuer à rendre populaire 40 ans avant sa compatriote, Jacqueline Dupré. L'œuvre avait été mal accueillie à sa création en 1919 par Félix Salmond. C'est Beatrice Harrison que Elgar choisit pour l'enregistrement d'une version raccourcie de son concerto pour violoncelle et orchestre pour le label His Master's Voice. Le compositeur est lui-même à la baguette. Lady Elgar, bouleversée par l'interprétation de Beatrice Harrison, déclara à la mère de la violoncelliste « Je pense que votre enfant parviendra à susciter l'amour des gens pour cette œuvre quand elle aura l'occasion de la jouer en public. » Sur France Musique, la violoncelliste britannique Beatrice Harrison, dirigée par Edward Elgar dans son concerto pour violoncelle et orchestre. Une œuvre qui deviendra 40 ans plus tard, le cheval de bataille de Jacqueline Dupré.
France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
Une autre grande violoncelliste qui fut aussi essentielle dans cette conquête féminine, c'est la portugaise Guilhermina Sujia. Restée dans les mémoires pour une peinture emblématique d'Augustus John, où on la voit avec son violoncelle en train de jouer dans une robe rouge somptueuse, avec la tête tournée vers la droite, c'est une des premières grandes dames du violoncelle dont le talent et la vie sentimentale agitée nourriront tous les fantasmes. Sujia, née en 1885, fait des débuts de prodige, guidée par son père, Augusto, un violoncelliste. Elle fait des progrès rapides sur un instrument de taille 3/4 et donne très tôt des récitals avec sa sœur aînée, Virginia, qui est pianiste. Son père la fait jouer pour tous les grands artistes de passage, et notamment devant le tout jeune Pablo Casals, épaté par la talentueuse jeune violoncelliste.
Thank you.
Tamboresque de Leone Sinigaglia par la violoncelliste virtuose portugaise Guilhermina Souzia. Après une invitation à jouer devant le roi et la reine à Lisbonne, Guilhermina se voit offrir une bourse pour aller étudier auprès du professeur légendaire Julius Klengel à Leipzig. Klengel qui forma entre autres Emmanuel Feuermann ou encore Gregor Piatigorsky. Souzia impressionne beaucoup son professeur et dès 1903, elle fait ses débuts avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig en soliste, dirigé par Arthur Nikisch. C'est un triomphe. Elle est même obligée de jouer le concerto en entier une deuxième fois. Quelques jours plus tard, elle joue en duo avec son professeur Klengel. C'est elle qui joue la partie du dessus. À nouveau, un triomphe pour la jeune femme de 18 ans. S'en suivent des concerts dans toutes les capitales européennes. Et elle recroise Pablo Casals. Cette fois-ci, c'est une rencontre amoureuse entre les deux violoncellistes. Sur France Musique, nous écoutions la sérénade espagnole de Glazounov par la violoncelliste portugaise Guilhermina Souzia, une de nos musiciennes de légende. De 1907 à 1913, Souzia vit avec Pablo Casals à Paris dans sa villa, la Villa Molitor. Bien que les deux violoncellistes se soient désignés comme mari et femme et qu'à partir de ce moment-là, Souzia signe ses programmes Guilhermina Souzia Casals, il n'y a aucune preuve de leur mariage. Le couple côtoie l'élite artistique de l'époque. Les violonistes Jacques Thibault, Fritz Kreisler, Eugène Isaïe, ou les pianistes Alfred Cortot ou Mieczysław Orzechowski. Mais la relation est tumultueuse entre Casals et Souzia. La jeune femme est trop libre. De toute façon, elle ne compte pas devenir femme au foyer, encore moins avoir des enfants. Les scènes de jalousie de Casals sont inénarrables. En fait, il y a un grand violoncelliste en trop dans ce couple. La rupture est douloureuse. En 1914, Souzia déménage en Angleterre. En moins d'une décennie, le public londonien l'adore. Elle est surnommée la Souzia. Musicienne accomplie à la personnalité envoûtante, c'est peut-être la première femme soliste que l'on pourrait appeler une diva. Suja affiche sa féminité sans complexe, elle s'habille dans les dernières tenues de haute couture et surtout s'impose comme grande violoncelliste.
Thank you. Thank you.
un enregistrement du concerto de Haydn en ré majeur par Guillermina Sugia sous la direction de John Barbirolli. En 1924, Sugia retourne au Portugal et se marie à l'âge de 42 ans. Elle continue à jouer beaucoup jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale n'éclate en 1939. Après la fin de la guerre, elle reprendra ses tournées et enseignera, notamment en donnant des conseils à de jeunes violoncellistes. Guillermina Sugia, à la différence de Casals, qui modernise le jeu du violoncelle, aura un style hérité de la grande tradition du 19e siècle, utilisant le vibrato avec parcimonie. Écoutons-la dans sa très belle version du Kol Nidrei de Max Bruch.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions le Kol Nidrei de Max Bruch dans l'interprétation de Guilhermina Soudja. Avant sa mort, Guilhermina Soudja, sans enfant, prendra soin de laisser un testament. Elle laissera en héritage son violoncelle et une fondation sera créée au Portugal et au Royaume-Uni pour soutenir les jeunes violoncellistes talentueux. En 1955, 5 ans après sa mort, une des lauréates du prix Soudja sera une jeune prodige de 10 ans, la Britannique Jacqueline Dupré. Ce sera un véritable passage de flambeau. Dans le prochain épisode, nous irons en France, en Russie, aux États-Unis et au Canada pour suivre d'autres reines du violoncelle. Merci à l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Florian Hénaud et Julien Douminc. Cet épisode est disponible en replay sur le site de France Musique ou en podcast sur l'appli Radio France. À dimanche prochain, 16h.
À réécouter sur francemusique.fr.